Bienvenue au balado Ancrage Travail, la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice et réalisatrice du balado Ancrage Travail, le balado qui veut faire entendre la voix des personnes mûres et expérimentées au parcours diversifié et celle de gestionnaires d'entreprises innovantes sur des enjeux de société qui nous interpellent et la place qu'ils occupent dans nos vies. Mon invitée aujourd'hui est Nathalie Prémont, qui est écrivaine, conférencière et entrepreneur. Suite à un diagnostic coup de poing en 2019, c'est à l'âge de 51 ans que Nathalie apprenait qu'elle était atteinte du cancer du pancréas, celui dont le taux de survie n'est que de 10 % tous stades confondus. Vous l'entendrez lire des passages de lecture de son livre intitulé « Au-delà du cancer, derrière le code QR », ponctué par des pauses musicales en poésie qui lui tiennent à cœur. Bonjour Nathalie.
Bonjour Linda.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Merci d'avoir accepté, parce que c'est pas un sujet qui est nécessairement facile, mais c'est tellement lumineux ce que tu as à nous dire que je pouvais pas m'empêcher de t'inviter pour le faire.
Merci beaucoup. Je dois avouer que la première année, du moins au tout début, je voyais pas tout de suite la luminosité, mais elle est vraiment venue en effet en cours de route.
Bien, on pourrait commencer par, moi, ce qui m'intriguait, c'est le titre de ton livre, « Au-delà du cancer ».
Derrière le code QR.
Oui.
En fait, je voulais parler d'une part de quelque chose que je connais, que je connaissais, donc moi, mes émotions, mon ressenti. Quelque part, je parle du cancer autrement qu'on entend parler généralement. Donc, je parle de l'humain, des émotions derrière, de tout ce qui est invisible, de tous nos questionnements dont on parle vraiment rarement. Au-delà du cancer et derrière le code QR, en fait, c'était aussi pour parler au monde, au personnel du milieu médical, parce que souvent, tous les analyses, tous les résultats de tests arrivent sur le code QR. Comme on sait, c'est une manière très efficace de transmettre les données, les informations, mais pour rappeler que derrière un code QR, il y a l'humain. Un être humain.
Ah, ben merci pour la distinction. Ça prend tout son sens. C'est ça, je voulais savoir au niveau du titre, ta source d'inspiration pour le titre et ta poésie qui est à l'intérieur de ce livre-là.
Ben c'est ça, ma source d'inspiration, mais c'est ça, c'est tout ce que j'ai vécu et c'est l'humain. Je trouve que nous avons un besoin criant de ramener de l'humanité dans le réseau, dans notre réseau de la santé. Alors, pour moi, c'est important, par exemple, mon livre, « Il est couleur peau », alors, je voulais vraiment que les gens, lorsqu'ils lisent mes mots, puissent avoir l'impression, finalement, de sentir un corps humain quelque part entre les mains. Donc, de ramener l'humanité au cœur de notre réseau de la santé et de nos vies, en fait.
Tout le monde souhaite ça, je pense, hein?
Oui, ouais, par les temps qui courent, hein, ouais, je pense que oui.
Oui. Donc, merci pour l'explication. Je passerai à un autre niveau. Voilà, 5 ans, tu as eu ce diagnostic-là. C'est un choc, un éclatement physique et psychologique, comme on en a déjà discuté au préalable. Mais à quel moment marquant de la trajectoire que tu as eu à vivre, as-tu vraiment réalisé l'ampleur de la gravité du type de pathologie qui t'envahissait?
Oui, parce que le choc fut en effet très grand, puis c'est particulier parce que c'est venu un peu comme en escalier, en escalade, de nouvelle en nouvelle. Mais il y a un moment qui fut marquant. En fait, c'est la journée où je suis allée chercher mes médicaments pour contrer l'ensemble de mes effets secondaires que j'allais avoir avant de commencer mon traitement de chimiothérapie. Alors, j'ai vraiment eu un choc à la pharmacie et une fois de retour chez moi à la maison.
Et tu as d'ailleurs écrit un poème là-dessus.
Oui, j'ai pris mon crayon et mon papier, alors je vais vous le lire.
Merci.
Une fois arrivé sur mon balcon, j'ai pris 3 grandes respirations parce que ça tournait en rond. La peur m'a saisie au cœur lorsque j'ai vu sa torpeur surgir au fond des yeux de ce pharmacien chaleureux. Le scénario que je découvrais était pire que ce que je pensais. Pourtant, j'avais fait tout ce que je pouvais dans ce monde où je me méconnaissais. Même si le printemps dernier, j'avais été sous le choc préparé à toute éventualité et voracité, entre-temps, j'avoue, j'ai espéré.
Ah, merci. Ben, suite justement à cette prise de conscience, comment ça s'est donc déroulé? Comment tu as vécu ça, toi, par la suite?
Alors, il y a eu plusieurs phases. Dans un premier temps, en fait, j'avais vraiment l'impression que ma vie était totalement éclatée, en éclats. J'avais l'impression d'être dans un chaos, où est-ce que je flottais quelque part en mille morceaux. Donc, ce qui m'a amené, poussé à utiliser différentes stratégies, en fait, pour rester les deux pieds sur terre, dont entre autres l'instant présent. C'est parce que l'instant présent, finalement, était le seul moment où je me sentais bien et où le monde n'était pas totalement effondré sous mes pieds ou devant moi. C'était le seul endroit où je ne faisais pas d'anxiété, en fait. Le seul endroit où je ne pensais pas à la mort, mais où est-ce que je sentais, finalement, la vie circuler à l'intérieur de moi. Alors, comment qu'on fait, hein, l'instant présent? Alors, entre autres, la méditation m'a énormément aidée. Méditation, la marche. J'ai marché. Et puis, toutes mes passions, en fait, au fur et à mesure que ma santé, que mes forces reprenaient leur place dans ma vie, alors je redécouvrais petit à petit certaines passions.
Comme lesquelles, par exemple?
Ben, comme entre autres l'écriture, les mots, en fait. Mais au-delà d'une passion, ce fut, j'oserais dire, ma béquille aussi, mon médicament. Je pense que pour moi, ça l'acte d'écrire m'a aidé à guérir en quelque sorte. Donc, fait partie de mes trucs pour guérir, finalement.
Mais c'est ça que je trouve intéressant depuis le début. Tu parles vraiment des trucs qui sont humains. Là, on parle d'émotions, on parle de stratégies concrètes. C'est pas des médicaments, mais c'est une autre sorte de médicament, si j'ai bien compris.
En effet, c'est une autre sorte de médicament complémentaire et tellement important lorsqu'on se retrouve, en fait, devant le précipice de la mort, lorsqu'on l'on fait un face-à-face à la mort, parce que moi, mon taux de survie à l'époque était entre 5 et 8 %. Il est maintenant rendu de 10 % pour les personnes atteintes du cancer du pancréas, mais on comprend que beaucoup de personnes dans mon entourage, malgré eux et elles, me voyaient morte. Dont beaucoup de gens qui s'y connaissent, donc dans le milieu médical, parce qu'ils connaissent très bien les statistiques.
Oui.
Mais c'est ça, nous ne sommes pas strictement une statistique, nous sommes avant tout un être humain. Et donc, tout ça pour dire que confronter devant la mort, ce qui est important, c'est de reprendre pleinement contact avec notre être, en fait, avec nos valeurs, et quelque part, c'est une opportunité de faire un voyage intérieur, donc une opportunité d'apprendre à se connaître davantage, en d'autres mots.
Parce que dans le passé, avec le train-train de vie, le travail, on semble avoir moins de temps ou on ne prend pas le temps, n'est-ce pas?
C'est souvent un mélange des deux, en fait, parce que on a des vies bien remplies, beaucoup d'obligations, beaucoup de loisirs qu'on veut faire, et parfois on a l'impression, en effet, d'être dans un tourbillon.
On s'oublie souvent.
Oui, on s'oublie pour faire toutes les obligations qu'on a à faire, professionnelles, familiales, etc. La maladie m'a forcé à arrêter, en fait. Et donc, lorsqu'on se retrouve seul, face à face, à soi-même, on a quelque chose, on obtient quelque chose de précieux, du temps. Ce qu'on n'avait jamais auparavant, eh bien maintenant, lorsque j'étais en convalescence, en fait, j'en avais plein de temps. Plein de temps, ce qui était une richesse. En tout cas, pour moi, ce fut une richesse et j'en ai profité pleinement pour lire, pour écrire, pour faire plein de choses, mais dont, entre autres, pour comprendre qu'est-ce que j'avais véritablement, quel est le type de cancer que j'avais et qui j'étais. Et de faire des choix en fonction de ma personne, de mes valeurs, parce que c'était des choix importants qui concernaient ma vie, ma qualité de vie à venir, voire ma mort, en fait.
Vers l'inconnu, tu sais, justement, parce que c'était tout l'inconnu au départ, tes repères, comment ça a fonctionné en dedans de toi? Ça, t'avais des repères, tout à coup, tu n'en avais plus, ou...
Et où ils ont changé, mais certes, Il y a un repère, en fait, qui reste, qui est toujours resté pour moi en tant que mère de famille. Nos enfants nous donnent une force phénoménale. C'est un ancrage qui était là et qui me donnait énormément d'espérance et de détermination, en fait. Moi, dans mon cas, mes enfants étaient jeunes, en fait, étaient jeunes adultes, au début de jeunes adultes, fin adolescence. Alors, je voulais vraiment les voir évoluer et grandir, croquer à pleines dents dans la vie, bref. Alors, moi, c'était une détermination très importante, entre autres, mais avec mes projets personnels aussi, également, qui ont pris le dessus.
Donc, d'où ça vient, cette force-là, puis ta résilience de faire face aux intempéries? Dans le fond, t'en as eu plusieurs. Est-ce que c'était de mieux en mieux? Comment ça s'est passé chez toi?
Oui, c'est quelque chose qu'on développe, hein? C'est un cheminement. Alors, oui... Si je reprends au début, hein, nous sommes dans une situation totale de vulnérabilité à tout point de vue. On a parlé d'éclatement tout à l'heure. Lorsque notre vie éclate à tout point de vue, la maladie, moi, ce fut également au niveau professionnel, au niveau familial. Ça nous donne le vertige dans un premier temps. Ça nous permet de reprendre contact avec nous et de découvrir des forces à l'intérieur de nous qu'on n'aurait jamais... qu'on ne soupçonnait même pas quelque part qu'on avait ou pas à ce point-là. Alors, ça permet de découvrir nos richesses intérieures à un certain niveau, mais des forces réelles qui nous aident à passer au travers. Je peux peut-être vous lire un petit passage qui m'a inspirée, en fait, qui est sortie... tout bonnement, mais qui m'a inspirée aussi au courant des dernières années. Alors, ça s'intitule « La force ». Debout, malgré les intempéries et les temps gris, elle triomphe à travers la souffrance et les désillusions. Elle garde le cap malgré la solitude. Elle assure la garde grâce à sa vision. Enracinée, elle s'élève vers les cieux tourmentés. Fragilisée par le vent à tout moment, elle inspire par sa solidité, sa ténacité et sa véracité. Une lumière salvatrice pour traverser nos tourments. Elle se laisse guider par l'amour, une puissance en extension vers la résilience, une indépendance d'esprit puisant sa source dans le cœur, pour assumer la réalité et s'élever vers l'éternité.
Oh, merci, merci. Pour en revenir à tout à l'heure, quand tu parlais de la force et tout ça, tu as parlé de quelques approches ou des ressources, des stratégies que tu utilisais pour continuer à vivre, OK? Donc, tu as parlé du moment présent, tes repères, puis le focus sur des valeurs, je pense aussi, hein, c'est important pour toi?
Oui.
Ben l'entourage, le travail d'équipe de l'entourage?
Notre entourage, nos valeurs personnelles, mais après, il y a tout notre entourage qui a un impact tellement important, en fait. Notre entourage bienveillant, notre famille, nos familles, nous sommes tellement dans des situations de vulnérabilité lorsqu'on, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on a vraiment besoin des autres, on a besoin de nos proches, on a besoin d'une écoute bienveillante, en fait. Et bien entendu, l'équipe médicale qui est essentielle, entre autres pour nous donner, d'une part, l'ensemble des informations dont on a besoin. Et ce sont nos premiers alliés, en fait, hein, mm-hmm. Essentiels à la base et également toute la communauté. Alors, une fois que nous avons terminé nos traitements ou suite à une chirurgie, on se retrouve à la maison, nous sommes avec nos proches, mais on a avantage également à se constituer une communauté autour de nous ou à faire en sorte de sortir de l'isolement. Personnellement, moi, je me suis inscrite à un atelier d'écriture qui m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui avaient exactement la même passion que moi, qui vivaient des choses sensiblement similaires à moi, car c'était des personnes également qui avaient le cancer. C'est très enrichissant et ça offre énormément de soutien lorsqu'on partage...
Des similarités, dans le fond, là,
exact,
de ce qu'on vit. Hein?
Exact, avec d'autres personnes. Mm. Parce que les autres personnes viennent nous enrichir également. C'est ça.
Pour faire un parallèle avec ça, justement, il me semble que tu m'avais dit que l'annonce de ton diagnostic, on retourne un petit peu en arrière, mais l'annonce, tu as eu un petit peu de difficulté ou tu ne l'as pas dit. Est-ce que tu peux nous en parler là-dessus?
Ah oui, je l'ai tenu. J'ai tenu cette nouvelle-là quand même assez secrète, le fait que j'avais le cancer du pancréas. C'est un cancer, en fait, ce cancer-là a très, très mauvaise presse compte tenu de son faible taux de survie. Donc, ce que je réalise là en cours de route, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui connaissent un ami, quelqu'un de la famille, un proche qui est décédé du cancer du pancréas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le troisième cancer le plus tueur au Québec, même s'il ne touche que 3 % de la population. Alors, c'est ce qui fait en sorte qu'il a une perception très négative. Donc oui, j'ai gardé ça secret, en fait, jusqu'à l'automne dernier. Pendant les 4 premières années, je ne l'avais dit qu'à un petit groupe restreint.
Wow.
Parce que moi, personnellement, je n'étais pas capable au début de vivre avec le regard des autres qui me voyaient morte. Et c'était aussi, moi, je ne me voyais pas morte à l'intérieur. Et puis, je ne voulais pas que le milieu professionnel à l'époque soit au courant parce que moi, je savais que je voulais revenir sur le marché du travail. Et je me disais même que si les employeurs savent que j'ai eu le cancer du pancréas, ils ne voudront jamais me réembaucher.
Mmh,
alors, c'est un peu le scénario que j'avais en tête. C'est ça.
Ouais. Mais juste pour donner une image, moi, qui m'a vraiment rentré dedans, là, c'est comment ils t'ont décrit ton pancréas quand tu as fait l'analyse, je crois, là?
Oui, bien là, ça, c'est mon tout premier choc lorsque le gastro-entérologue m'avait dit que m'avait résumé finalement que mon pancréas était comme un gruyère, donc plein de trous. Alors non, ce n'était pas très rassurant.
Donc, oui. Tu as fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là, hein? Tu es toute lumineuse dans ton processus de guérison. C'est remarquable, vraiment, là. Donc, pour la question de aussi t'en parler, de beaucoup te découvrir à travers tout ce cheminement-là, ce parcours-là, te reconstruire, où en es-tu maintenant?
Oui, alors oui, se reconstruire, parce qu'après que tout soit éclaté, eh bien, on a l'opportunité de reconstruire. Puis quand je dis l'opportunité, c'est réel, parce que dans le fond, après avoir fait un voyage intérieur, on apprend à se connaître davantage. Donc, lorsqu'on reconstruit notre vie, en fait, on l'a fait davantage avec conscience, en fait, quelque part, et on l'a construit. On construit une vie qui nous ressemble. On se lie d'amitié. Je vais reprendre à l'envers, en fait. Ça nous donne l'occasion. Un voyage intérieur nous donne l'occasion de faire un ménage extérieur aussi, en quelque sorte.
Les priorités, tout ça.
Exact. Ouais. Et une fois qu'on détermine davantage à l'intérieur nos priorités et qu'on fait des choix différents par la force des choses, au fil des mois et des années, ça s'incarne à l'extérieur. Alors...
Oui, il y a un passage dans ton livre que j'aimerais que tu nous lises parce que ça dit beaucoup... c'est sur la question de un filet de sécurité, mais aussi, ça commence justement, tu pourras continuer, que la vie est belle.
Oui, la vie est belle, sans elle, on meurt. Cette phrase est inscrite en rose sur notre colonne vivante à la maison, qui est comme un grand tableau noir. Une colonne qui se laisse transformer grâce aux mots et aux pensées qui s'inscrivent au fil des besoins et des inspirations du moment. Je la lis et la relis tous les jours. Elle m'inspire.
Donc, c'est vraiment marquant, hein? Sur un mur rose, c'est très lumineux, mais maintenant c'est permanent et puis c'est un rappel.
C'est un rappel quotidien, fait. Les mots font partie de ma vie. C'est un rappel quotidien qui était dans ma cuisine, que je voyais régulièrement. Parfois, je mets d'autres types de mots sur mon frigidaire. On emploie, en fait, des trucs, des stratégies qui nous rejoignent et qui nous aident dans nos vies, mais tout ça part de manière très concrète dans notre quotidien.
Donc, au départ, tu avais dit que justement, que tu as renoué avec l'écriture, mais c'est quoi l'importance de l'écriture et de la place de la poésie dans ton parcours vers la guérison? Comment tu penses que ça l'a joué? Tu vas faire quoi avec ça maintenant? Ça fait partie de ta vie, là.
Bonne question, alors. Mais c'est clair que l'écriture, les mots, l'écriture a joué un rôle majeur dans ma guérison. Tout d'abord, c'est une passion retrouvée, donc c'est un plaisir. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne voit pas le temps passer, on est totalement dans l'instant présent. Mais l'écriture a l'avantage... non seulement de nous aider à se connaître soi-même, mais à être capable de prendre un détachement également envers soi-même. Donc, de prendre un peu de recul, ce qui est vraiment intéressant. Et lorsqu'on écrit, ça nous permet également, j'oserais dire, en ce qui me concerne, d'accélérer en fait la connaissance de moi-même et mon évolution, et donc, en ce qui me concerne, ma guérison.
Comment justement te fait face à ce diagnostic-là et de trouver toutes les ressources internes et externes, là, dans le fond, c'est ça?
Oui, mais les mots sont venus comme ma béquille, en fait. C'était mes plasters émotifs, en quelque sorte.
Oui. C'est beau, oui, wow. Ben, en fait, ça fait déjà 5 ans que tu as eu ce diagnostic-là. Je souhaiterais que tu partages encore un autre poème, c'est tellement révélateur, que tu partages justement un poème avec nous qui illustre bien le contraste et la transformation qui s'est effectuée depuis l'annonce du diagnostic jusqu'à la guérison. C'est un peu comme si tu étais un papillon en devenir, un cocon, et qui est sorti... dans toutes ses couleurs, dans toute sa splendeur. Peux-tu nous lire ce passage?
C'est beau, ton belle analogie. Alors, ça s'intitule « Contraste ». Il y a 18 mois, je croyais que ma vie était finie. L'annonce du cancer du pancréas me révélait une perfidie, me conduisant vers la passivité, la souffrance et la morbidité, produits chimiques, corps en dégradation et esprit égaré. S'affliger, endurer, désespérer, se résigner, devenir mortifié. L'inéluctable sort sous mes pieds régi par les données, perdu dans cette usine sans égard pour mes pensées, prisonnière du matérialiste, prétendant détenir la vérité. Soudainement, jaillit la survie et éclate une rébellion. Éruption d'interrogation, tournade de remise en question, explosion des paradigmes et effondrement des croyances. Voir autrement, fuir les dogmes et croire en la délivrance. Aujourd'hui, je fais du ski de fond sous un ciel bleuté. Une aisance récupérée grâce à ma cadence de pas retrouvée, un sursis à déguster à la saveur d'une joie décuplée, une liberté authentique et une reconnaissance à partager.
Donc, au printemps, le petit papillon voltige un peu, il va un peu, petit peu partout, hein?
Exact.
Wow. Il y a un autre sujet qui m'a fait penser. Souvent, on regarde des personnes qui vivent des gros défis de santé ou autre. Ça peut être santé mentale, santé physique, cancer, peu importe. Et on se dit tout le temps, moi, je sais pas si je serais capable de faire ça, de remonter la côte, de rebondir. Donc, souvent, on parle en santé qu'on veut prévenir, on fait toutes sortes de tests et tout ça. Est-ce que de savoir, est-ce qu'on peut projeter en disant « si j'avais su, comment on réagit face à « si j'avais su que j'aurais eu tel problème ou telle maladie ». Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Oh, on est souvent mieux de ne pas le savoir. Je crois vraiment qu'on a l'avantage à ne pas savoir ce qui nous arriverait. De toute manière, c'est ça la vie. Hein? Mm. La vie est complètement composée d'imprévus et d'imprévus, de belles surprises comme des adversités costaudes. Mais chose certaine, c'est que tous ces imprévus et adversités qui se présentent devant notre chemin, devant nous, en fait, nous permettent de découvrir des forces qu'on ne savait même pas quelque part qui existaient à l'intérieur de nous. Ou en tout cas, moi, jamais j'aurais pensé vivre une épreuve aussi grande. Mais finalement... On y arrive lorsqu'on y va petit à petit. Je pense que on peut trouver les forces à l'intérieur de nous.
Est-ce que tu penses, on en a discuté un petit peu aussi, est-ce que c'est la peur de telle chose qui nous arrive, qui nous empêche d'avancer, de rebondir? Ouais. Peux-tu nous en dire un petit peu là-dessus?
Oui, donc dans mon cas, ou en tout cas pour beaucoup de personnes atteintes d'un cancer, c'est souvent la peur de la mort. Hein. Mm-hmm. Moi, en ce qui me concerne, j'avais entre 5 et 8 % de taux de survie à l'époque. Alors, c'est sûr que la mort est venue rôder autour de moi, dans mon esprit, dans mes pensées. Mais le jour où j'ai pris la décision... de ne plus avoir peur de la mort, mais plutôt de prendre pleinement, de profiter pleinement des moments que j'avais en vie et où est-ce que je me sentais bien. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai plus eu peur de la mort. Puis, c'est ce qui m'a aidé, dans le fond, à prendre les décisions importantes dans ma vie. Alors, oui, on a vraiment avantage à transgresser notre peur, dans le fond.
Dans toute situation, dans le fond. Les moins pires et les pires, dans le fond. C'est un peu ça.
Exact. Tant de plonger parfois dans un lac avec de l'eau très froide que de prendre des décisions quand on est confronté à la mort, de prendre des décisions importantes, juste pour faire une boucle avec ce que l'on disait tantôt. De là, l'importance d'être bien ancré avec soi-même et nos valeurs. Car dans ce temps-là, on est capable de faire, de donner un petit coup de pied là, à la peur là, qui vient nous chatouiller. Là, et comme ça, on est capable d'avancer.
Quand tu es dedans, c'est pas si pire qu'on pensait dans le fond.
Dans l'action, finalement, dans le feu de l'action, ça vit et ça évolue et ça avance.
Donc, dans le fond, j'aimerais bien que tu nous lises encore une fois. C'est tellement bien écrit, ça dit beaucoup. Un passage, justement, qui s'appelle « Si j'avais su ». Il y a le côté qui nous intéresse sûrement, c'est que vraiment le côté lumineux dont tu viens nous parler. Justement.
Oui, et ça se situe à la fin du récit. Alors, je vais vous lire les deux dernières strophes. Si j'avais su, je n'aurais pas fait tout ce cheminement qui m'a permis d'affronter, d'éclairer et de m'affirmer tout en observant et en savourant mes sentiments pour les coucher subtilement sur du papier. Parfois, vaut mieux ne pas savoir et se laisser transporter par l'espoir. Des événements inattendus surgissent et des miracles se tissent.
Et sur ce, Nathalie, je veux te remercier infiniment pour ton partage, ton ouverture, ta sensibilité et de nous avoir fait voyager dans le fond au cœur de tes réflexions et de tes émotions. Bonne continuation, ma belle.
Merci Linda de m'avoir reçue. C'est vraiment très apprécié. Merci pour ta belle sensibilité également.
Mais je pense que les auditeurs et les auditrices vont être vraiment charmés d'entendre et de t'entendre dans ton écriture aussi. Un gros merci.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ancrage Travail. Voulez-vous en connaître davantage sur différents enjeux qui pourraient vous intéresser? Alors suivez-nous sur facebook.com/Ancrage Travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.